l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Jean-François Bonin.
Bonjour Lionel.
Votre invité ce matin, Laurent Luyer, c'est le directeur de l'IAC, l'Institut agronomique calédonien.
Laurent Luyer, bonjour.
Bonjour Jean-François Bonin. Bonjour.
Merci.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain du conseil d'administration de l'IAC qui s'est donc tenu hier. Comme tous les établissements publics, il doit voter son budget avant le 31 mars, ce qui est fait. On va évidemment revenir sur ce budget, sur les moyens qui sont accordés à l'IAC, mais aussi sur les programmes et les projets de recherche. On parlera du cœur de ce que fait l'IAC, mais justement, est-ce qu'il ne faut pas rappeler au début, Laurent Luyer, quel est le rôle et quelles sont les missions de l'IAC ?
Alors, oui, merci. L'IAC, Institut agronomique néo-calédonien, donc, pour rappeler rapidement sa création, en 1999, suite à l'accord de Nouméa, l'IAC est un établissement de recherche et qui est particulier à deux titres. D'abord parce qu'il est essentiellement qualifié d'établissement local, parce que gouverné et financé surtout par des collectivités locales, donc les trois provinces, la Nouvelle-Calédonie, et bien sûr l'État qui contribue beaucoup, à 40% du budget. Et puis qualifié aussi d'original parce que nous sommes sur une thématique, l'agronomie, qui est une thématique importante et le seul établissement de recherche qui traite pleinement de ces thématiques.
Alors justement, on va parler des programmes et des projets en cours, mais sur ces 25 années ou 26 années d'existence, est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont permis d'améliorer le monde agricole ou l'agriculture en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il y a déjà eu des résultats probants ?
Oh, bah oui, quand même. En tout cas,
c'est la réponse que j'attendais.
Je prêche pour ma paroisse. Alors, évidemment, il faudrait plutôt poser cette question à ceux qui sont destinataires des résultats et puis demander leur avis. Mais c'est subjectif. Donc, mais non, de manière la plus objective possible, dans le domaine, par exemple, de l'appui à la filière élevage, nous avons beaucoup œuvré pour aider à lutter, par exemple, contre la tique du bétail. C'est un exemple assez marquant puisqu'on a mis en place un certain nombre de méthodes de lutte, dont la dernière et qui est en phase de transfert, qui est la mise en place d'un vaccin qui a été développé par l'IAC en collaboration avec d'autres, évidemment, notamment des Australiens, mais qui fonctionne assez bien, qui permet quand même de réduire la pression de tiques sur les animaux sensibles. La filière aussi arbo-fruitier, par exemple, auquel nous avons beaucoup œuvré depuis plus de 30 ans maintenant même, hein, parce que c'était initié par le CIRAD et même un petit peu avant la DRAF. Et l'IAC a repris le flambeau sur Pau-Creux, avec la plus belle collection d'arbres fruitiers du territoire, des dizaines de variétés d'avocats, des dizaines de variétés de manguiers, encore plus en variété sur les agrumes. Et puis on diffuse beaucoup de ces variétés auprès des arboriculteurs.
Alors est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de poursuivre vos activités ? Le budget adopté hier, qui on l'imagine, et vous allez nous dire, est légèrement en baisse par rapport au budget précédent, puisque c'est le cas de tous les budgets aujourd'hui, est-ce qu'il vous permet quand même de maintenir ces missions dans de bonnes conditions ?
Non, je ne peux pas dire en bonne condition, ça serait mentir. Hein. Il faut qu'on soit face quand même face à la réalité qui nous frappe tous. Ouais. On est tous obligés de fonctionner en mode dégradé, hein, plus ou moins. En tout cas, pour l'IAC, c'est le cas et ça nous impacte fortement. À titre d'exemple, notre budget qui a été voté est en baisse par rapport à 2024 de 12%. Alors, ça ne paraît pas énorme. Mais en fait, il faut regarder sur plusieurs années, parce que c'est pas seulement depuis 2024 que nous sommes en difficulté. 2023-2024, déjà, la baisse était de 17%. Et sur les cinq dernières années, parce que ça a commencé fortement depuis la Covid en 2020, c'est 35% de recettes en moins de la part des collectivités. Donc c'est quand même très difficile.
Alors comment vous arrivez à compenser d'une certaine façon cette baisse des subventions des collectivités publiques ?
Alors, par différentes solutions, malheureusement une baisse drastique des dépenses, comme tout le monde, et cette baisse est, en tout cas, à l'IAC, j'ai le sentiment que l'on fait des efforts exceptionnels. Depuis des années, hein, la baisse, par exemple, de la masse salariale, qui est le poste le plus important dans beaucoup d'établissements publics. Au sein de l'IAC, la masse salariale représente à peu près 75% des dépenses. Nous étions 66 agents temps plein il y a un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 42. Ça fait 30% environ en moins. Et à la fin d'année, on prévoit encore une dizaine de départs, probablement. Il y a de grandes chances qui ferait qu'on tomberait à 32 agents. Donc ça fait 50% de baisse sur la masse salariale en un peu plus de 5 ans. Donc c'est énorme. Et sur les charges courantes, donc les dépenses du quotidien, nous sommes aussi à de fortes baisses, puisque là aussi, en moins de 5 ans, on baisse de moitié toutes nos dépenses de charges courantes. Donc on se serre la ceinture, donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de frais, par exemple, autorisés sur les déplacements hors territoire. On ne se déplace plus pour des colloques. Les carburants sont réduits à la de moitié. On se déplace de moins en moins sur le territoire. On fait de plus en plus de réunions en visioconférence, etc., etc.
Mais est-ce que cette baisse du nombre d'agents, qui est, vous l'avez rappelé, hein, qui est constante depuis plusieurs années, du coup réduit le périmètre de travail de l'IAC ? Vous faites moins de projets ? Vous suivez moins de dossiers ?
Alors, automatiquement, on a quand même une activité en mode dégradé. Mais heureusement, les chercheurs sont des gens intelligents et dynamiques et passionnés. Face à cette situation depuis plusieurs années, ils réagissent en répondant à des appels à projets, justement, encore plus qu'avant. Et nous avons depuis 5 ans une augmentation chaque année du nombre de projets financés par sur appel à projets, donc des financements extérieurs, en plus des financements que nous avons par nos membres. À titre d'exemple, nous étions à une quinzaine de projets et puis 20 millions de ressources en 2021. Et chaque année, on augmente. Et cette année, nous avons 36 projets avec 130 millions de recettes sur ces projets prévus en 2025.
Donc vous êtes obligé de calibrer quand même votre activité en fonction évidemment des fonds dont vous disposez.
C'est ça. Et puis l'activité maintenant est principalement guidée par ces financements sur projets que nous avons. Et les financements des collectivités que nous avons financent le socle commun, c'est-à-dire les salaires des agents permanents et le fonctionnement courant.
Alors, des difficultés de fonctionnement en raison de budgets qui sont en baisse régulièrement. Quand même, aujourd'hui, sur les programmes les plus emblématiques que suit l'IAC, est-ce que dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir, il y a comme par exemple la lutte contre la TIC, il y aura des programmes qui vont aboutir à des résultats concrets ?
Oui, 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 c'est l'objectif, évidemment, même si les résultats concrets de la recherche, c'est toujours trop long, hein, c'est ce qu'on dit, et je comprends, bien sûr, ça nécessite des travaux de longue haleine, hein, c'est le principe même de la recherche. Donc les résultats arrivent en général après plusieurs années de travaux, au meilleur des cas, ça peut être 3 ans, 5 ans, et quand ce sont des travaux compliqués à transférer ou à mener, ça peut être plus de 10 ans, voire plus de 15 ans parfois. Donc les sujets, il y en a beaucoup. Donc la TIC, j'en ai parlé. Alors la TIC, c'est un sujet, j'ai envie de dire, du passé, puisqu'on est en phase de transfert encore au jour d'aujourd'hui. On peut dire que le programme est fini quasiment. En tout cas, cette année, on est en train encore de travailler pour accompagner les quelques éleveurs encore qui utilisent le vaccin.
On pourrait avoir à ne plus parler de la TIC en Nouvelle-Calédonie dans les années qui viennent ?
C'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais la gestion de la TIC est bien mieux maîtrisée comparée, par exemple, à ce que c'était il y a une vingtaine ou même une dizaine d'années. L'utilisation des ticicides a été réduite probablement, je n'ai pas de chiffres précis, mais probablement de diminuer d'un facteur 5 en 20 ans. Par différentes techniques. Hein. Alors la lutte génétique, par l'introduction de races résistantes, par la lutte agronomique, les rotations, la meilleure maîtrise des parcelles, et par la lutte donc immunologique avec le vaccin que nous avons développé. Donc ça a permis de faire des progrès énormes. Donc on continue en tout cas sur d'autres thématiques, notamment sur les fruitiers. On continue à travailler sur la filière fruits, non seulement pour diffuser les ressources génétiques, en introduisant aussi de nouvelles ressources. On vient d'introduire depuis quelques années. Et le temps que les arbres grandissent pour pouvoir ensuite faire des boutures et les diffuser. Mais on a introduit par exemple le citron caviar, j'ai oublié le nom, mais c'est la main de Bouddha et d'autres espèces comme ça qui sont assez particulières. Alors ça ne va pas forcément non plus permettre d'assurer toute la sécurité alimentaire du territoire. Mais bon, ça contribue en tout cas à développer la filière et à générer des ressources. Donc la filière fruits continue. Évidemment, autour de la filière fruits, il y a toute la problématique de la gestion aussi de la production agricole. Et ça passe par la maîtrise de la fertilité du sol. Donc la science du sol, la santé des sols, c'est toujours une thématique très forte en agronomie, parce que tout part du sol, hein, je le rappelle, en agronomie. Hein, les plantes, et même le pâturage pour le bétail, il faut un bon pâturage, il faut un bon sol. Donc la gestion du sol est une thématique très forte en agronomie que l'on mène depuis des années avec des chercheurs qui sont très impliqués. Avec ici deux orientations fortes dans ce sujet que l'on continue à mener, qui sont... la gestion de la matière organique. De plus en plus, on développe ce qu'on appelle l'économie circulaire avec l'utilisation de produits locaux pour améliorer la fertilité des sols. Et puis aussi la problématique des métaux dans les sols. Donc on restitue par exemple le 31 mars une étude sur les concentrations en métaux dans les aliments locaux. Il y aura une restitution le 31 mars sur la foie, puisque le travail est terminé, donc on restitue les résultats.
Sans doute un travail très attendu, parce que oui. Ça concerne beaucoup de monde, y compris, et en premier lieu, les consommateurs.
Exactement. Alors bon, je tiens à rassurer, il n'y a pas de...
Voilà, vous n'avez pas dévoilé. Non,
mais il n'y a pas de facteurs très graves, de facteurs qui de nature à nous inquiéter. Même s'il peut y avoir des points de vigilance, ça sera discuté le 31 mars.
Alors, pour que le monde de la recherche soit véritablement productif et adapté finalement au territoire sur lequel il s'applique, est-ce que vous êtes en contact régulier avec le monde agricole, avec les agriculteurs? Est-ce qu'ils vous font remonter les problèmes qu'ils rencontrent? Enfin voilà, quels sont les échanges que vous avez?
Oui, bien sûr. Alors, très rapidement d'abord, quand on construit notre programmation scientifique, qui est une programmation quinquennale, on demande à nos membres du conseil d'administration, dont fait partie la Chambre d'agriculture, donc qui représente le monde agricole, de nous faire remonter leurs attentes. Par écrit en plus, hein, pour que ce soit formalisé, et qu'on soit sûr de pas se tromper, d'avoir bien compris. Et il y a une séance ensuite qui dure 2 jours, que l'on appelle le comité d'orientation stratégique, qui fait la synthèse de toutes ces demandes pour en ressortir la substantifique moelle, et qui sert ensuite de base à notre programmation quinquennale. Donc là, nous avons une programmation 2023-2027. Alors, la situation évolue, évidemment, en 5 ans. On n'a pas les moyens et les objectifs méritent d'être révisés, malheureusement, à la baisse. Et la Chambre d'agriculture nous a, par exemple, écrit il y a une quinzaine de jours pour nous signaler leur grande inquiétude vis-à-vis de la situation de l'IAC, et en particulier sur la station de Pau-Creux, avec des arbres fruitiers qui sont en mauvaise santé, pour beaucoup d'arbres malheureusement, parce que l'année dernière il a fait très sec. Nous n'avons pas eu les moyens d'arroser correctement toutes les parcelles, donc il y a des arbres qui sont très fatigués. J'espère que nous n'avons pas trop de pertes d'arbres. En tout cas, ceux qui sont en train de repartir grâce aux pluies là, depuis quelques semaines, reprennent de la vigueur, mais ne sont pas forcément en très bonne santé. Donc, les prélèvements pour déboutures sont à faire de manière très, très parcimonieuse. Donc, on risque de perdre malheureusement des variétés avec ces problématiques, et ça inquiète beaucoup le monde agricole. Nous avons une réunion prévue avec la Chambre d'agriculture pour en parler, parce que beaucoup d'arboriculteurs dépendent justement de la station de Pau-Creux pour leurs activités.
Pardon, vous faites aussi, et c'est important de le souligner, l'IAC fait partie du CRECICA, hein, qui regroupe les organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie, et ça c'est quand même pour vous quelque chose de très important. D'abord c'est une reconnaissance évidemment,
oui,
mais
oui,
plus
oui.
Que ça c'est aussi des apports techniques. Et...
Oui, bah, c'est en fait le moyen, et c'était la volonté lors de la création du CRECICA en 2014, de se réunir encore plus, parce qu'on travaillait déjà ensemble avant en tant qu'établissement de recherche, mais d'organiser un peu mieux cette mise en commun de moyens, que ce soit des moyens en termes d'équipement, mais aussi en termes de ressources humaines et de qualifications et de compétences. Ça a permis, si on fait le bilan sur 10 ans, à ce que, effectivement, les communautés de chercheurs au sein du CRECICA, qui réunit 9 membres, hein, je le rappelle, l'université, l'IRD, IFREMER, le CIRAD, le CNRS, l'Institut Pasteur, l'IAC, bon voilà, je ne vais pas tous les citer.
Le CNRT
Non, le CNRT n'est pas des établissements de recherche, hein. Donc ne fait pas partie du CRECICA. Ces 9 organismes travaillent de plus en plus, depuis 10 ans, sur des projets de recherche, donc de manière ensemble, et génère des ressources sur des appels à projets, par exemple, de plus en plus ensemble. Alors, il y a les gros projets, par exemple, que l'université obtient, alors c'est souvent l'université qui obtient les plus gros projets, comme le projet Excellence récemment. Je ne vais pas dire que c'est grâce au CRECICA, mais en tout cas, en grande partie, parce que ça a permis de montrer cette dynamique collective avec d'autres partenaires du CRECICA qui sont dans le projet Excellence.
Laurent Luynier, directeur de l'IAC, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On ne parle pas beaucoup et rarement de l'IAC, c'était l'occasion de le faire. On suivra votre rendez-vous du 31 mars, donc la restitution de cette enquête qui sera votre prochain événement public.
C'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.
Merci Jean-François Baudin, merci à tous.